On a gagné un degré, les amis, donc c'est 7. On nous annonce un maximum de 10 pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce sera nuageux tout au long de la journée. Certains endroits, il pourra y avoir des averses. On parle de 30% de probabilité d'averse. Minimum de 0 pour ce soir et cette nuit. Quelques nuages. Demain, mardi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 10. Et à plus long terme, mercredi, milieu de semaine, maximum de 10 degrés. Pour nous joindre en studio, s'il se passe quoi que ce soit, vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle d'un record de démissions dans le réseau scolaire. Il y a plus de 1300 enseignants. On parle de jobs assez permanentes là, qui ont quitté leur poste l'année passée seulement dans les écoles publiques. Et on dit que malgré une directive de Québec, il est encore difficile de connaître les raisons menant à ces départs. On n'a pas consulté les enseignants qui quittent.
Non.
C'est un peu weird. Là. Dans toute ton entreprise privée, t'as un Jeff, t'as un Max qui arrive, qui dit « Hey, patron, je quitte. »
Ils vont partir.
Ben, le patron, normalement, va dire « Ben, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire pour te garder? »
Exactement.
Il semblerait que ça se fait pas. Mais bref, on en parle avec Richard Bergevin, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement sur les démissions des enseignants. Bonjour, comment allez-vous, M. Bergevin?
Ça va bien. Bonjour, M. Marceau. Bonjour, M. Fortin.
Bonjour.
Racontez-moi comment sont comptés ces 1300 enseignants permanents qui ont quitté. Est-ce que de ces enseignants permanents-là qui ont quitté, il y en a qui se sont replacés dans d'autres écoles, ce qui fait en sorte que le chiffre serait peut-être un peu moins gros?
Bien, en fait, fort probablement là, qu'il y a quelques enseignants là-dedans qui ont démissionné puis qui ont quitté pour un autre centre de service scolaire. Mais il faut se rappeler ou il faut savoir que quand on quitte notre centre de service scolaire, on perd des droits, là, on perd de l'ancienneté, par exemple, puis on s'en va dans un nouveau centre de service scolaire. Alors, quand les gens font ce choix-là, c'est pas un choix qui est fait à la légère, c'est un choix qui est fait pour essayer de trouver un meilleur milieu parce que les gens sont souvent en souffrance dans leur milieu puis essayent d'aller se trouver un endroit plus adéquat pour eux. Malheureusement, souvent, ils réalisent que qu'on soit à Longueuil, qu'on soit à Québec, à Trois-Rivières ou à Sherbrooke, souvent on retrouve les mêmes conditions, les mêmes problèmes qu'on vit dans nos classes, c'est-à-dire des classes où il y a beaucoup de cas d'élèves en grande difficulté puis pas beaucoup de moyens pour les soutenir.
Bien, la semaine dernière, on parlait de ça. On parlait d'un article qui mentionnait que dans une classe de 23-24 étudiants, il y avait 17 étudiants qui avaient des programmes où l'enseignant devait faire en sorte... Bon, lui, il y a un TDAH, faut faire attention à ci, faut faire attention à ça. Il y a de la dyslexie. C'est l'enfer. Je veux dire, qui peut tolérer ça comme enseignant, d'avoir 17 enfants où on doit intervenir indépendamment? Puis il y en a quelques-uns qui, eux autres, ont un bon cursus scolaire. Moi, dans mon entourage, des professeurs qui ont quitté le public pour le privé, là, c'est légion. Là. Sur les 10 professeurs que je peux avoir dans mon entourage, il y en a 7 qui ont décidé qu'eux autres, dans le public, il y en avait assez. Puis ils voulaient aller chercher des élèves qui avaient été triés, puis qui avaient des bons comportements. Puis pour eux, dans leur tête, c'était au privé. C'est des gens qui ont quitté. On les a perdus dans le public. C'était des bons enseignants.
Ben, c'est malheureux de penser que les enseignants, les bons enseignants font le choix d'aller vers le privé parce qu'ils vont avoir une clientèle plus facile. Puis c'est quoi le message qu'on envoie à nos élèves? Le système d'éducation au Québec, c'est supposé être un système qui va essayer de donner une égalité des chances, c'est-à-dire des élèves qui ont un peu moins de stimulation à la maison, ben vont par l'école vont être capables de grandir puis de se développer puis d'assurer que vont pouvoir se développer au meilleur de leurs possibilités, d'aller au bout de leurs possibilités. Puis là, tout d'un coup, on dit que notre système d'éducation publique, on va le laisser de côté, puis on va juste garder certains enseignants. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il faut s'assurer qu'on redonne à la classe ses lettres de noblesse, puis s'assurer qu'on est capable d'avoir des enseignants qui vont être capables de soutenir les élèves en difficulté. Parce que la grande difficulté qu'on a, là, c'est quand on a des élèves, bon, vous parliez de 17, là, mais 17, peut-être que c'est un cas particulier. Mais
c'est dans la presse. Le cas a été répertorié, mais c'est dans la presse.
Oui, c'est ça. Mais une dizaine ou une douzaine pour une classe de 25, là, c'est assez la norme au Québec. Puis quand on a 10 élèves qui sont en difficulté, parce qu'on est meilleur qu'on était avant pour diagnostiquer, pour déterminer c'est quoi la difficulté, puis comment trouver quelles solutions mettre en place. Le problème, c'est quand on en arrive à mettre les solutions en place, qu'on n'a pas assez de services, pas assez de techniciens d'éducation spécialisée, pas assez d'orthopédagogues, ce qui fait que l'enseignant doit prendre sur ses épaules de mettre en place toutes ces mesures-là particulières. À un moment donné, l'enseignante ou l'enseignant ne suffit plus à la tâche. Puis là où on va faire le lien avec les démissions, c'est que souvent, il arrive un événement souvent, malheureusement, de la violence souvent qui arrive en jeu, qui est la goutte qui fait déborder le vase, puis là, l'enseignante décide de quitter, ou bien pour aller pour le privé, ou bien tout simplement pour se réorienter sa carrière. Mais on perd des beaux talents, des gens qui ont des formations, qui ont pris 4 ans d'université pour se former, et qui se retrouvent à quitter la profession parce qu'on n'est pas capable de leur donner des conditions pour être capable de bien faire leur travail.
On voyait en parallèle aujourd'hui dans les médias le nombre de départs d'enseignants, également la difficulté à recruter du personnel de soutien. J'imagine, là, même si les centres de services scolaires ne font pas d'entrevue de départ, j'imagine que vous, ce que vous entendez, ça doit être un des points marquants là, du départ des enseignants, de ne pas avoir d'aide avec les élèves en difficulté.
Ah, tout à fait. Puis quand on parle des entrevues de départ, là, c'est une demande qu'on avait faite au ministère de l'Éducation l'année dernière de faire, de systématiser. Le ministre avait répondu en disant oui, on va demander au centre de service scolaire. Puis si vous vous rappelez, là, c'était passé à un moment donné dans les médias que le ministre demandait ça au centre de service scolaire. Malheureusement, juste après avoir fait la demande, il a annoncé au centre de service scolaire qu'on faisait un gel d'embauche, que tout d'un coup, on ne pouvait plus embaucher de gens. Donc, ils ont mis une contrainte au niveau des centres de services scolaires qui faisait qu'ils n'étaient pas capables d'embaucher des gens parce que faire des entrevues de départ, ça prend quand même un petit peu de temps. Puis, ça devrait être fait de façon systématique parce que présentement, on a une pénurie, on manque de personnel, puis il faudrait comprendre pourquoi les gens quittent pour être capable de favoriser leur maintien en emploi. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent de l'université, qui rentrent et qui quittent dans les 5 premières années. Ça, c'est un problème d'accompagnement, là. C'est un problème de soutien quand ils arrivent dans les écoles. On a des gens qui arrivent en milieu de carrière qui viennent donner un coup de main, là, ce qu'on appelle souvent les non légalement qualifiés, mais c'est des gens duquel on a besoin dans nos classes. Ben, eux, il faut aussi être capable de les soutenir pour qu'ils restent plus longtemps dans la profession. Parce que s'ils quittent rapidement, on n'a pas fait un gros pas par en avant. Maintenant, faut être capable de soutenir toutes ces choses-là. Puis nous, à la FSA, on a proposé au ministère de l'Éducation au printemps passé une dizaine de solutions. Il n'y a pas de magie, hein, parce qu'on corrigera pas la situation d'un coup de baguette magique. Mais si on met en place des mesures, qu'on les soutient pour plusieurs années, tranquillement, on va changer la tendance. Parce que, vous le savez, souvent dans les sondages, ce qu'on dit, c'est pas nécessairement juste le chiffre, mais comme la tendance des chiffres, là, des différents sondages. Ben, quand on regarde la tendance des démissions, là, on est passé de 700 quelques à 3319 en 5 ans. Par année, c'est une montée des démissions qui est assez impressionnante et qui risque de créer des problèmes.
Ben, on dit que ça a augmenté depuis 5 ans, mais le nombre de profs a connu une hausse de 6% au cours de la même période. C'est des profs qui ont été embauchés au début de l'année scolaire, des profs non qualifiés. Qu'est-ce qui explique cette augmentation-là de 6%?
Ouais. Bien, vous savez, les petits caractères, des fois, sont importants dans ce genre d'informations-là, hein, surtout dans les statistiques. Ici, ce qu'on dit, c'est l'augmentation du nombre d'enseignants permanents. Donc, on n'a pas nécessairement eu plus de personnes qui viennent enseigner, mais dans la dernière convention collective, on a conclu avec le gouvernement une possibilité. En fait, les centres de services scolaires avaient une demande pour être capable d'attacher plus rapidement les enseignants, les rendre permanents plus rapidement pour être capable de les garder. Alors, on a convenu d'une nouvelle appellation pour les enseignants permanents pour être capable d'avoir un peu plus de gens qui restent attachés au centre de service scolaire rapidement. Et donc, ça a fait augmenter le nombre d'enseignants permanents, mais ça n'a pas fait augmenter le nombre d'enseignants ou la quantité de services qui est offert aux élèves.
Dans les dernières années, on a augmenté votre salaire, ben, pas nécessairement le vôtre, là, mais le salaire des enseignants en général. On a enlevé les échelons qui étaient les échelons de départ. Est-ce que ça a amélioré quelque chose? Parce que je vais vous dire, ben, franchement, M. Bergevin, je suis un peu l'actualité depuis les années 80. Mm-hmm. J'ai l'impression que les profs n'ont jamais été heureux depuis les années 80. Ça va prendre quoi?
J'irai pas à dire que les profs sont jamais heureux. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que pendant plusieurs années, on a négligé les investissements en éducation, là, depuis le début des années 2000 jusqu'à tout récemment. Et les enseignantes et les enseignants, selon Statistique Canada, qui avait pris des mesures depuis plusieurs années, étaient les moins bien payés au Canada. Alors, le fait d'augmenter les salaires, ça a permis de pour l'instant, on ne connaît pas encore la statistique. Là, on va l'avoir bientôt, là, mais on devrait mieux être placé à travers les enseignants canadiens, là, donc avoir amélioré un petit peu la situation. Maintenant, c'est pas tout le salaire, hein, puis la difficulté à être capable d'offrir des services, parce que vous savez, un enseignant qui veut donner des services à des élèves, qui a des enfants là, de 8 ans, là, on travaille pas avec des des cannes de conserve, on travaille avec des enfants. Ces enfants-là qui ont des difficultés, on connaît leurs difficultés, on est capable de leur offrir le service, on sait exactement ce qu'on a besoin de leur donner comme service, mais on n'a pas les ressources nécessaires pour être capable de les soutenir. Puis on le sait que ces enfants-là qui ont 7-8 ans, qui vivent des difficultés, si on ne corrige pas la situation rapidement, à long terme, ça peut être néfaste pour cette personne-là. Ben, c'est dur psychologiquement pour les enseignantes et les enseignants. Et c'est ça qu'on dénonce actuellement. C'est le fait de ne pas être capable d'offrir les services à la hauteur des attentes, des besoins. Puis souvent, le ministre, j'ai entendu le ministre dire que les besoins étaient illimités. C'est faux. Les besoins sont grands, mais ils ne sont pas illimités. Quand on dit qu'ils sont illimités, ça fait juste nous donner une raison de ne pas agir. Il faut agir, il faut améliorer les services. On a des moyens pour améliorer la situation, pour qu'il y ait d'offrir de meilleurs services, puis garder nos profs d'expérience un petit peu plus longtemps, maintenir les jeunes qui arrivent dans la profession, ceux qui viennent donner un coup de main, de mieux les soutenir pour être capable d'offrir des services de qualité. Puis, je vous le dis, présentement, ce qui touche le plus les enseignants, c'est de la difficulté à offrir les services qu'on devrait être capable de donner aux élèves.
Est-ce qu'on devrait tenter de revoir le modèle? Puis je m'explique, on a beaucoup... Il y a quand même une hausse présentement des gens qui étudient pour devenir professeurs. Est-ce qu'on devrait les prendre dès leur deuxième année ou troisième année d'université, les faire travailler dans nos écoles et créer du mentorat avec les profs d'expérience? De cette façon-là, on garderait nos profs d'expérience et ce seraient les plus jeunes sur le terrain qui acquériraient également de l'expérience avec un mentor, donc plus de chances de demeurer?
Dans les 10 propositions qu'on a fait au ministère de l'Éducation au printemps passé, la proposition que vous venez de faire, là, ça fait partie un peu des propositions qu'on a faites, de mieux accompagner les étudiants universitaires qui arrivent. Bon, il y a des stages déjà qui se font dans les milieux, là, mais de mieux les accompagner. La dernière année de leur 4 ans, de leur permettre d'avoir une tâche qui est suffisante, d'avoir une rémunération aussi qui est en lien avec ce stage-là, parce que vous savez, dans les professions, dans les gens qui vont à l'université, qui font des stages, là, dans plusieurs professions, je pense en génie, en droit, les gens sont payés, mais en éducation, les gens ne sont pas payés quand ils font des stages. Il faut être capable d'offrir les mêmes conditions qu'on offre à d'autres professionnels, puis s'assurer qu'on va chercher les meilleurs étudiants et qu'on les accompagne dès le début, parce qu'il y a un décrochage quand ils rentrent dans la profession, mais il y a aussi un décrochage pendant l'université. Alors, il faut être capable de bien les accompagner du début de leur processus d'apprentissage à l'université jusqu'à temps qu'ils soient en formation, puis pendant quelques années encore. Et si on est capable de faire ça, de prendre des profs d'expérience, venir soutenir les plus jeunes, je pense qu'on serait capable même de garder un petit peu plus longtemps les profs d'expérience, ceux qui sont capables de soutenir les jeunes qui ont du bagage, qui ont autant de la formation que du bagage derrière eux, de l'expérience pour être capable de transmettre ce savoir-là. Puis je pense que ça serait agréable pour les profs d'expérience aussi de pouvoir communiquer tout ce qu'ils ont vécu. Alors, dans ce contexte-là, il faut mettre en place des mesures. Il faut être capable de les soutenir pendant plusieurs années et on va changer la tendance. Mais si on essaye de juste jouer avec un coup de baguette magique avant des élections, on risque de pas finir à la bonne place là, puis de gaspiller de l'argent inutilement.
Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Est-ce que les écoles privées ont leur place au Québec?
Oh, ça, c'est un grand enjeu.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, mais en fait, nous, la position qu'on a là-dessus, c'est qu'on veut avoir une mixité scolaire dans nos classes, c'est-à-dire d'avoir des gens dans les classes du public, puis dans les classes régulières, d'avoir une mixité, d'avoir des gens qui sont forts, des gens qui sont moins forts. Ça attire tout le monde vers le haut. Puis ça a été démontré. Tu sais, on parle souvent des données probantes, là, des données qui ont été vérifiées. Bien, une des données les plus efficaces en éducation, c'est d'avoir une mixité scolaire, c'est-à-dire d'avoir des gens qui viennent de tout horizon dans une même classe. Ça attire tout le monde vers le haut. Et pour avoir ça, ben il faut s'assurer qu'on fait pas une sélection des élèves qui ont les plus grosses notes en sixième année, puis qu'on les envoie toutes dans la même école. Alors là-dessus, on n'est pas d'accord avec ce processus-là. Maintenant, est-ce qu'il devrait y avoir des écoles privées, pas privées? On le voit en Ontario, il y en a des écoles privées, mais c'est des écoles privées qui ne sont pas subventionnées. Est-ce que c'est puis on vante souvent le modèle ontarien? Peut-être que si
à partir du moment où un parent, envoie son enfant à l'école privée, il y a une partie qui est subventionnée. Donc,
Québec,
cet enfant-là me coûte moins cher.
Oui, mais il coûte plus cher autrement. C'est-à-dire que quand on a des classes qui sont équilibrées, tout à l'heure, on se parlait des élèves qui ont des plans d'intervention dans nos classes. Quand oui. c'est trop, quand on en a un certain nombre, on est capable de suffire à la tâche, puis on est capable d'offrir des services de qualité. Puis, quand ils sont trop concentrés, à un moment donné, c'est difficile. Ben, quand on prend 30 % ou 20 % des élèves et on les envoie au privé, particulièrement au secondaire, là, c'est pas tout à fait la même réalité au primaire, mais au secondaire, c'est comme ça. Ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça concentre les difficultés. Et là, on n'est plus capable de suffire à la tâche. Il faudrait offrir un niveau de service beaucoup plus élevé. Alors, on est capable d'offrir des services de qualité quand il y a une mixité scolaire. C'est déjà démontré depuis longtemps. Et donc, puis les calculs ont été faits, là, c'est pas moi qui les ai faits personnellement, là, mais des économistes ont fait les calculs pour dire que les coûts qui seraient engendrés par l'intégration des élèves du privé vers le public serait c'est à peu près nul là. Ça coûte à peu près rien de réintégrer parce qu'on aurait une mixité, parce qu'on pourrait profiter des écoles, de l'ensemble des écoles du Québec, là, de réunir les élèves ensemble. Alors, je pense pas qu'il y ait d'enjeux financiers en lien avec l'arrêt des subventions des écoles privées, mais ça, c'est des choix de société, puis c'est un débat qui est un petit peu plus large que celui qu'on peut faire. Mais nous, avec nos collègues de la CSQ, on souhaite qu'il y ait une grande réflexion en éducation pour qu'on soit capable de choisir, que le Québec choisisse vraiment c'est quel type de système d'éducation qu'il veut avoir. Puis si on veut avoir de la mixité scolaire, bien qu'on prenne les décisions pour y arriver. Parce que la mixité scolaire, je vous le répète, c'est un des facteurs les plus déterminants de la qualité des services d'éducation à travers le monde.
Il y a eu un changement à la tête du ministère de l'Éducation. C'est maintenant Sonia Lebel, la nouvelle ministre de l'Éducation. Vous avez une recommandation à lui faire. C'est laquelle?
Présentement, c'est d'investir pour attirer les plus jeunes dans la profession, pour soutenir les profs qui sont là, puis essayer de donner le goût aux plus expérimentés de rester un petit peu plus longtemps, de bien noter les solutions qu'on lui a proposées. Puis on est ouvert aussi à d'autres propositions, mais il faut régler le problème de la pénurie, parce que la pénurie, présentement, ça met de la pression sur tout le monde, ça crée du désengagement. Puis, malheureusement, ça diminue la qualité de l'enseignement. Il faut s'assurer qu'on règle les problèmes de pénurie le plus rapidement possible. Il faut rendre la profession enseignante attrayante pour les plus jeunes.
Richard Bergevin, ça a été un plaisir.
Merci.
Merci, M. Bergevin.
Au revoir. Bye-bye. Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Beaucoup de profs qui ont démissionné, de ce qu'on comprend, là, dans la dernière année. C'est 1300 profs permanents qui ont remis leur démission dans les écoles publiques québécoises. Ces profs-là se sont peut-être trouvés d'autres emplois, que ce soit dans le privé ou peut-être dans une autre école. N'en demeure pas moins que c'est assez inquiétant.
Très inquiétant, parce que c'est des enseignants, en plus, qui ont de l'ancienneté. Donc, des enseignants qui sont compétents, qui étaient normalement en contrôle de leur classe, qui avaient toutes les aptitudes pour continuer à faire de l'enseignement, mais en raison justement de la tâche qui est devenue très dure, décident de quitter. Là, bien, on remplace ça par qui en pénurie? Bien, par des enseignants non qualifiés. Donc, nécessairement, il y a une baisse là, du niveau d'enseignement dans nos écoles.
Je ne suis pas sûr que c'est à notre avantage en tant que société d'avoir des enseignants qui sont épuisés, là, qui enseignent à nos enfants.
Mais non, pas du tout, parce que... veut pas, la qualité d'enseignement diminue.
Si tu viens
la
du qualité prof d'encadrement,
ben oui, ben oui, ben oui, non, c'est ça. On veut plus de prof Lamy dans nos classes. Et mon coco avec la règle sur la tête.
Hey, j'étais au primaire, j'avais été visiter cette école-là, à l'école Cardinal Orwell, puis le prof Lamy avait déjà de l'air à bout, rendu en secondaire 5. Il avait autant de l'air à bout.
Exactement. On veut des profs motivés, on veut des profs qui ont le goût d'enseigner. Il y en a encore, ça existe encore. Chapeau à ceux et celles qui le font encore avec passion, mais malheureusement, on s'est embourbé dans le système d'éducation et ça donne les chiffres qu'on a là, au-dessus de 1000 démissions d'enseignants compétents et expérimentés.
9h43, on vient.
Marceau le matin. Marceau.